Pourquoi l'imitation n'est-elle pas secondaire ? On est toujours frappé devant le phénomène de l'imitation, quelqu'un qui imite quelque chose ou qui imite quelqu'un d'autre, on est toujours frappé par un paradoxe. D'un côté, on a l'impression évidemment que c'est quelque chose de secondaire, puisque la chose que l'on imite est donnée, au fond, avant l'imitation elle-même, et pourtant, il y a quelque chose de fascinant dans l'imitation, quelque chose qui fait qu'elle traverse toute notre vie, toute notre société, qu'elle produit des effets, parfois désastreux, parfois géniaux, et que donc on est obligé de se pencher sur cette étrange phénomène de l'imitation. Que signifie véritablement ce verbe « imiter » ? Il faut commencer peut-être par le définir, et la définition peut être extrêmement simple et nous expliquer ce paradoxe qui conduit jusqu'au cœur de nos vies et de nos relations dans l'éthique et la politique elle-même. Imiter, qu'est-ce que cela signifie exactement ? Imiter, c'est en réalité produire un comportement, produire un objet. C'est produire quelque chose ou un comportement, mais semblable à quelque chose ou à un comportement donné auparavant, semblable à un autre. C'est donc une production ou une création qui a quelque chose de paradoxal. D'un côté, en effet, l'imitation paraît secondaire. Imiter, c'est se rapporter, comme le dit Platon dans un texte très célèbre et en quelque sorte fondateur de la République. Imiter, c'est toujours se rapporter à un modèle. Imiter, c'est copier. Copier, c'est essayer de soumettre son action à quelque chose qui est déjà donné, et selon Platon, c'est inévitablement être inférieur au modèle. Le modèle comporte une sorte de perfection et l'imitation consiste à le reproduire dans une version finalement toujours imparfaite par rapport au modèle, et on sait que Platon distingue des degrés de création qui sont comme des descentes, des catastrophes successives. Ainsi, l'artisan produirait un lit ou un objet par rapport à un modèle qu'il s'est donné, un but qu'il s'est fixé, et dans la matière imparfaite, il produit une réalisation secondaire par rapport au modèle primitif. Et puis ensuite, il y a toutes les copies du modèle lui-même, les copies, par exemple, dans la peinture, dans l'art, qui sont alors des dégradations successives d'un modèle pensé comme une norme, pensé comme une réalité, derrière laquelle l'acte d'imiter n'aurait aucune originalité par définition. Mais on oublie ce qui est au cœur de l'acte d'imiter, c'est-à-dire que l'imitation est une production. Ce n'est jamais seulement une reproduction. L'imitation est une création peut-être paradoxale, mais néanmoins réelle. L'œuvre imitante, l'œuvre que l'on crée en prétendant imiter, en se rapportant à quelque chose ou à quelqu'un d'autre donné au préalable, l'œuvre aura quelque chose de différent et surtout, elle a un but. Il faut se demander pourquoi nous imitons. Pourquoi est-ce que les humains se livre à ce phénomène paradoxal de l'imitation, si c'était aussi secondaire. Alors pourquoi les humains aiment-ils imiter ? Pourquoi y a-t-il un désir d'imitation ? Pourquoi voulons-nous reproduire et reproduire non seulement des choses auxquelles nous prenons du plaisir, par exemple devant un tableau, Pascal disait que même la reproduction d'une chose pénible peut nous donner du plaisir. Pourquoi est-ce que l'imitation nous donne du plaisir, nous donne aussi un élan, nous donne aussi des angoisses, nous conduit aussi vers des rivalité et peut-être vers de la violence? Est-ce que nous produisons seulement pour reproduire la chose même, pour apprendre, pour un tiers, pour être meilleur que les autres, pour un phénomène social qui traverse toute la société? Qu'en est-il aujourd'hui où des machines peuvent imiter l'humain, le reproduire, le simuler? On voit bien que le paradoxe de l'imitation, c'est qu'elle se donne comme secondaire, mais qu'elle a des effets différents, qu'elle est en réalité une création non seulement comme les autres, mais qui peut travailler, déformer, renverser toutes les autres.